Je vais en 25 minutes vous essayer de faire le point sur les conséquences cardiovasculaires du syndrome d'apnée du sommeil. Donc pour les anglophones, j'ai mis des diapositives en anglais, mais je vais présenter en français. Alors, donc, on verra qu'on a des modèles d'exposition à l'hypoxie intermittente pour comprendre les mécanismes qui associent apnée du sommeil et risque cardiovasculaire, à la fois chez l'animal et puis également on expose des sujets sains, je vous montrerai. On a une évidence pour un lien très fort entre syndrome d'apnée du sommeil, hypertension, arythmie, infarctus et AVC. On reverra ces éléments et puis on verra l'impact du traitement. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est vraiment la répétition de pauses respiratoires nocturnes. Et vous voyez que sur cet enregistrement de 5 minutes, on a vraiment un très grand nombre d'apnées. Ce qui caractérise cette maladie, c'est la chute du taux d'oxygène et sa remontée systématique, ce qu'on appelle l'hypoxie intermittente. Et puis, on a également des micro-éveils qui terminent les événements respiratoires et qui vont aussi stresser le système cardiovasculaire. Ça, vous voyez, c'est une technique de mesure de l'activité sympathique au niveau du nerf péronien. On pique avec une toute petite électrode et on voit la décharge d'activité sympathique. C'est une technique difficile à mettre en œuvre, mais qui est bien maîtrisée par un de mes collègues, qui est le docteur Tamizier. Et on voit que chaque apnée est associée à une décharge sympathique très importante. Et comme conséquence de cette stimulation, on sait que les apnées du sommeil sont associées dans 50% des hypertensions, on a les apnées obstructives, probablement dans 30% de la pathologie ischémique, 50% de l'insuffisance cardiaque, 60% des AVC et 80% dans l'hypertension artérielle réfractaire. L'autre chose qui est également très très importante à comprendre, c'est que ces conséquences cardiovasculaires pèsent très très fort dans le pronostic de ces patients. Si vous regardez cette très grosse cohorte de plus de 10 000 sujets canadiennes, suivis 70 mois, quand vous regardez le nombre d'événements respiratoires par heure, vous voyez qu'il y a un très bel effet dose-réponse. Plus je fais d'apnée la nuit, plus je meurs vite. Mais quand on ajuste, ça c'est une relation en univarié, quand on ajuste pour les comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension, l'AVC, l'insuffisance cardiaque et les infarctus, en fait, vous voyez que l'impact des apnées est bien moindre. Donc aujourd'hui, il faut concevoir et comprendre et traiter le syndrome d'apnée du sommeil comme une maladie systémique avec des comorbidités induites par l'hypoxie intermittente. Et ces comorbidités, quand elles existent, elles font le pronostic de ces malades. Alors, les mécanismes. Donc, quand j'ai de l'hypoxie intermittente, je vais créer du stress oxydant. Je vous l'ai montré, j'active mon système nerveux sympathique avec une décharge sympathique. Ça va générer de l'athérosclérose, on va le voir, ça va augmenter la rigidité de mes artères, générer une dysfonction endothéliale, et au final, on va voir arriver les conséquences cardiovasculaires dont on parle ce matin. Alors voilà encore un exemple en micro-neurographie du nerf péronien. Vous voyez que pendant l'apnée, on a cette décharge sympathique absolument considérable avec l'évolution progressive de la pression artérielle. Alors, sur l'hypertension, les liens hypertension-apnée sont probablement les liens qui sont le mieux documentés et qui sont plus discutés. Mais ça, c'est une étude en population générale aux États-Unis, c'est la cohorte du Wisconsin. Ils ont suivi plusieurs centaines de patients et c'est de l'hypertension artérielle incidente. C'est-à-dire, les gens, on les enregistre à un instant T et 4 ans après, on regarde qui a développé de l'hypertension. Bien, vous voyez que si j'ai plus de 15 arrêts respiratoires par heure, j'ai 4 fois plus de chances de développer de l'hypertension sans ajustement et 3 fois plus quand j'ai pris en compte mon poids, mon tabagisme, mon sexe, tous les autres facteurs de risque. Donc les apnées du sommeil sont bien un facteur indépendant pour l'apparition d'une hypertension. Ça, c'est un modèle dont on dispose à Grenoble, dont on est assez fier. On fait coucher des étudiants 14 nuits dans une tente à hypoxie. Alors je vous rassure, ils signent un consentement éclairé. Et vous voyez qu'on crée avec un système particulier des désaturations très sévères qui simulent un syndrome d'apnée du sommeil grave. On voit augmenter leur activité sympathique en piquant le nerf péronien. Et vous voyez que si on regarde leur pression artérielle des 24 heures, au bout de 14 nuits, ces gens qui ont 20 ans, qui sont minces, qui n'ont aucune comorbidité, ont développé une élévation de la pression artérielle. Donc ça, c'est la démonstration que l'hypoxie intermittente toute seule va générer de l'hypertension artérielle. Ça, c'est une cohorte espagnole. aussi 2000 patients qui ne sont pas hypertendus au début de l'étude. On les suit pendant, vous voyez, 10 ans. Et ceux qui ont des apnées sévères au départ et qui ne sont pas traités vont développer beaucoup plus d'hypertension que ceux qui n'avaient pas d'apnée au démarrage de l'étude. Donc pour l'hypertension artérielle, on est sûr de ce lien. L'hypertension artérielle du patient apnéique, elle a des caractéristiques particulières. Elle est particulièrement diastolique à cause de l'hyperactivité sympathique. Et vous savez que la nuit, on chute notre pression artérielle, ce qu'on appelle le dipping pattern. C'est très important en termes de pronostic cardiovasculaire. Et quand on a des apnées, on ne chute pas sa pression artérielle la nuit. Et donc les cardiologues ont bien l'habitude, quand il n'y a pas de chute de la pression artérielle nocturne, il faut absolument rechercher des apnées. Voilà un autre exemple, ça c'est un petit cas clinique. Vous voyez une pression artérielle des 24 heures, il y a ce qu'on appelle un reverse dipping. C'est un patient qui, au lieu de chuter sa pression artérielle la nuit, monte sa pression artérielle la nuit. Ça, c'est très typique de ce qu'on trouve dans le syndrome d'apnée du sommeil. Alors la situation dans laquelle les apnées du sommeil sont quasi systématiques, et dans toutes les recommandations aujourd'hui, il est absolument demandé de chercher les apnées du sommeil, c'est ce qu'on appelle l'HTA résistante. C'est des sujets obèses qui sont sédentaires et qui vont avoir dans 80% des cas des apnées du sommeil. Donc l'HTA résistante, je vous rappelle, c'est une HTA qui n'est pas contrôlée avec plus de 3 antihypertenseurs incluant un diurétique tiazidique. Quand vous avez fait vos études de médecine, on vous a dit qu'il faut chercher une sténose de l'artère rénale, des maladies un peu rares comme l'hyperaldostéronisme primaire. Vous voyez que chez ces patients, les apnées du sommeil sont très largement en tête. Donc dans l'HTA résistante, il faut chercher des apnées du sommeil. Concernant l'infarctus du myocarde, on expose des souris à de l'hypoxie intermittente. Vous voyez, on peut faire différents niveaux de désaturation. On reproduit, vous voyez, la souris, elle devient grise ici ou bleue. Elle est à 5% d'oxygène. On simule les désaturations liées aux apnées. Je ne vais pas détailler la diapositive, mais on a montré que si vous regardez l'épaisseur vasculaire, ce qu'on appelle l'épaisseur intima media, entre des animaux contrôle, des souris qui sont exposées à de l'air et des souris qui sont exposées à de l'hypoxie intermittente, ça correspond à des apnées très sévères. Il y a tout un remodelage vasculaire avec une infiltration ici de fibres élastiques, de cellules inflammatoires. Et ça va être à l'origine d'une augmentation de la rigidité artérielle qu'on peut mesurer. Et toutes les études sont concordantes pour dire que la rigidité des artères est augmentée dans les apnées du sommeil. Il y a également une inflammation vasculaire avec un afflux de cellules inflammatoires qui vont participer à cette athérosclérose. Alors, on avait montré, parmi les premiers, mais d'autres groupes l'ont fait, que si vous prenez vos patients qui ont des apnées du sommeil et qui ne sont pas fumeurs, on va écarter les gens chez qui on attend l'athérosclérose, qui ne sont pas obèses, et que vous mesurez leur épaisseur intima média carotidienne, eh bien les apnées toutes seules sont capables d'augmenter l'épaisseur intima média carotidienne et de donner des plaques chez 30% des apnéiques qui par ailleurs n'ont aucun facteur de risque. Donc aujourd'hui, on sait bien que les apnées du sommeil sont à l'origine d'un développement de l'athérosclérose. Et vous voyez que dans cette étude américaine prospective, où plus de 4000 sujets, hommes et femmes, ont été suivis, âgés de plus de 40 ans, sans maladie coronarienne au départ, avec 8 ans, presque 9 ans de suivi, eh bien on voit que quand vous avez un index apnée-hypopnée de plus de 30 par heure, vous avez 68% de risque en plus de développer une maladie coronarienne ou un infarctus. Donc là aussi, on est quand même très solide. Ça, c'est un papier qui va paraître, qui vient de notre équipe, où on a regardé, vous savez, la dilatation d'un vaisseau, c'est le premier stade de l'athérosclérose. Et en plus, quand on fait des apnées du sommeil, on fait des efforts respiratoires très considérables, on tire très fort dans le thorax. Et donc, on a regardé l'impact sur les dissections aortiques. Ça, c'est des patients qui ont été opérés d'une dissection aortique. Eh bien, on voit que ceux qui continuent à progresser en termes de taille de l'aorte au scanner après dissection sont ceux qui ont des apnées du sommeil qui ne sont pas traitées. Donc, dans toutes ces dilatations aortiques, vous savez, les cardiologues, maintenant, ils regardent la taille de l'aorte à titre systématique pour évaluer le risque. Quand vous avez des aortes qui se dilatent, qui sont de taille élevée, il faut vraiment chercher là aussi des apnées du sommeil. Alors, l'AVC, c'est une maladie redoutable, à la fois individuelle, parce que il reste souvent des handicaps très importants. Les coûts sont considérables. Et il y a, vous voyez, il y a pratiquement 17 millions de nouveaux AVC dans le monde. Donc c'est vraiment un problème considérable. Si on regarde toutes les études qui ont regardé parmi 18 000 participants, 800 nouveaux cas d'accident vasculaire cérébral, eh bien on voit que si j'ai un syndrome d'apnée du sommeil, j'ai un risque qui est deux fois plus important qu'un patient qui n'a pas d'apnée du sommeil de développer un accident vasculaire cérébral après ajustement pour tous les autres facteurs de risque. Et parmi les gens qui font des accidents vasculaires cérébraux, on sait que la fibrillation auriculaire augmente de 5 fois le risque de faire un AVC, et les AVC qui surviennent dans les suites d'une fibrillation auriculaire sont plus graves avec plus de séquelles. Et bien là aussi, on sait que les apnées du sommeil sont à l'origine des arythmies à cause de l'hypoxie dont je vous ai parlé, à cause de la stimulation sympathique, mais aussi parce qu'il y a tout un remodelage lié aux efforts respiratoires qui vont dilater l'auricule gauche, l'oreillette gauche, et vous savez que dans la pathophysiologie de la fibrillation auriculaire, eh bien entendu, le remodelage et la dilatation auriculaire et ventriculaire sont des facteurs très importants. Nous, on avait publié dans Circulation en 2007 le fait que si vous prenez des gens qui ont un pacemaker, quelle que soit la raison pour laquelle on les a implantés avec un pacemaker, la prévalence des apnées obstructives est de 50%. Ça, c'est également une comparaison en population générale de gens qui ont des apnées et pas d'apnées. Vous voyez qu'il y a 4 fois plus de risque de faire une fibrillation auriculaire, plus de risque d'avoir une tachycardie ventriculaire non soutenue, bigéminisme, quadrigéminisme. Ça, c'est l'exemple d'un patient. Hein, vous voyez qu'il fait la page ici, doit faire 30 secondes. Vous voyez une pause de 14 secondes au moment d'une apnée typiquement obstructive. Vous voyez l'apnée, les mouvements de lutte thorax-abdomen. Et il y a des gens qui sont implantés avec des pacemakers pour des pauses nocturnes de manière inappropriée, alors que ces pauses sont expliquées préférentiellement par des apnées du sommeil. Vous voyez ici, chez des gens qui ont un défibrillateur, c'est une très belle étude. Si vous comparez ceux qui ont des apnées ici, ils ont à peu près le même risque d'être choqués par leur défibrillateur en journée. Par contre, la nuit, il y a beaucoup plus de chocs électriques appropriés ou inappropriés du fait de la survenue de pauses respiratoires nocturnes qui engendrent des arythmies. Et il y a deux études au moins. Alors ça, c'est plus une presse, hein, pardon, c'est publié. Ça, c'est une très grande cohorte de plusieurs dizaines de milliers de sujets, voyez, de 10 000 sujets, pardon, et vous voyez que le risque de mort subite lié à une cause cardiovasculaire est augmenté chez les gens qui ont des apnées du sommeil sévères et désaturantes. Chez l'animal, on a été capable, nous, de montrer une augmentation de la taille de l'infarctus lié à l'hypoxie intermittente, et quand on déclenche un infarctus chez ces animaux, on voit très très nettement la survenue de fibrillation ventriculaire quand ils ont été auparavant exposés à une hypoxie intermittente. Et ça se transfère également en clinique, puisqu'aujourd'hui on a développé, c'est-à-dire que les pacemakers sont équipés de capteurs d'impédance thoracique. Ces capteurs d'impédance thoracique sont faits pour ajuster la fréquence du pacemaker à l'effort, et en fait ils permettent de détecter les événements respiratoires nocturnes. On l'a validé dans une étude européenne. Donc les nouveaux pacemakers sont équipés d'une détection d'apnée du sommeil. Insuffisance cardiaque, tous les mécanismes dont je viens de vous parler, hypertension artérielle, maladie coronarienne, on sait que le diabète est associé aux apnées du sommeil et également les troubles du rythme, font qu'il existe une association significative entre l'insuffisance cardiaque diastolique à fraction d'éjection préservée et l'insuffisance cardiaque tout court et apnée du sommeil. On sait que si j'ai plus de 30 apnées respiratoires par heure, je vais avoir à nouveau pratiquement 60% de risque supplémentaire de développer une insuffisance cardiaque. Et donc quand on voit toutes ces causes cumulées, on va avoir une mortalité, encore une fois, qui est augmentée chez les patients qui ont des apnées du sommeil. Alors, sur les 5 dernières minutes, on va regarder quel est l'impact de la pression positive continue qui réouvre les voies aériennes, quel impact sur la réduction du risque cardiovasculaire. Alors, on sait que sur la pression artérielle, vous savez que les études, maintenant, on les fait en comparant un traitement efficace avec des patients qui, dans l'autre groupe, portent le même masque, mais il y a un trou dans le masque, donc les apnées ne sont pas corrigées. Ils ont ce qu'on appelle une sham PPC ou une sham CPAP. Donc vous voyez qu'ici, on voit une baisse de la pression artérielle des 24 heures pour les patients qui ont le traitement efficace, comparé à ceux qui n'ont pas le traitement efficace. Il faut par contre, comme clinicien, retenir que l'amélioration de la pression artérielle liée au traitement par PPC est modeste, de l'ordre de 2 mm de mercure, en fait, en moyenne. Alors c'est significatif pour réduire le risque cardiovasculaire, mais ça ne permet pas d'arrêter des traitements antihypertenseurs. Simplement, même cette faible réduction est capable de réduire le nombre d'AVC et d'accidents cardiovasculaires incidents. Ce qui est très important, c'est l'utilisation de la machine. Dans cet essai randomisé qui a comparé chez des gens qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil, les événements cardiovasculaires incidents, en intention de traiter, il n'y a pas de différence significative et seuls les patients qui utilisent leur machine plus de 4 heures par 24 heures, et on pense aujourd'hui plus de 5 heures et demie par 24 heures, ont une réduction du risque cardiovasculaire. L'impact est plus important, en fait, dans des situations très particulières comme l'hypertension résistante dont je vous ai parlé, et ce très gros essai espagnol récent a bien montré que, encore une fois, si les gens utilisent leur machine, dans l'hypertension artérielle résistante, on a une réduction beaucoup plus importante de la pression artérielle qui peut atteindre 5-6 mm de mercure, ce qui réduit cette fois-ci de manière très significative le risque. Vous voyez, plus j'utilise ma pression positive, plus je réduis ma pression artérielle. Donc pour les patients, c'est vraiment un message extrêmement important. Il y a probablement un impact également dans l'AVC en termes de récidive et en termes de mortalité. Mais peu de gens, malheureusement, en post-AVC vont supporter la pression positive continue. Et ça, c'est réellement une difficulté. Là, on va en reparler tout à l'heure dans l'autre exposé. Il est très important de bien combiner les traitements. Vous voyez que pour l'hypertension artérielle, c'était une étude qui comparait le valsartan à la PPC chez des gens hypertendus, jamais traités pour leurs apnées, jamais traités pour leur hypertension. Vous voyez sur la pression artérielle des 24 heures l'impact majeur de l'antihypertenseur, le faible impact de la pression positive, mais quand vous combinez les deux, en particulier la nuit, vous avez un effet associé, synergique, qui est très intéressant. Et je vais finir avec cette dernière étude qui a été publiée dans le JACC récemment, qui est un très grand journal de cardiologie, et qui s'attache à réduire de manière très agressive, ce qu'on appelle une stratégie agressive, la récidive de la fibrillation auriculaire. Donc on traite la pression artérielle, on fait maigrir les gens, on s'occupe de leur glycémie, et ce qui est nouveau, c'est que les cardiologues, ils incluent dorénavant le traitement des apnées dans la réduction du risque de fibrillation auriculaire. Et vous voyez que ce traitement dit agressif, incluant le traitement des apnées du sommeil, permet d'améliorer la survie et de réduire très significativement le risque cardiovasculaire chez ces patients. Donc pour conclure, on a chez l'animal et chez des sujets exposés à l'hypoxie intermittente une démonstration très convaincante qu'il y a des mécanismes qui associent syndrome d'apnée du sommeil et risque cardiovasculaire. La démonstration est très claire pour l'hypertension artérielle et probablement pour l'AVC. Les effets du traitement par pression positive pour moduler ce risque cardiovasculaire sont très liés à la capacité des patients de faire le traitement pendant au moins 4 heures et probablement plus de 5 heures, mais ce n'est qu'un des traitements du risque cardiovasculaire et on fait de plus en plus de travail sur les stratégies combinées associant plusieurs prises en charge, dont le traitement des apnées du sommeil. Merci beaucoup.